Il marche ou...
Il marche.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de me retrouver devant vous. C'est pas la première fois que je viens et ma première fois remonte à 2009-2010. Donc j'étais stagiaire avec Peter et Martina. Et donc depuis, j'ai fini mon stage et j'ai rejoint mon église à moi, c'est Télégraphe, dans le 20e, donc toujours du réseau France Mission. Donc les choses ont changé depuis, enfin, me concernant. Donc j'ai fini mes études de théologie à la Fac de Vaud, donc avec mon Master Pro en 2014. Et à la même année, donc, j'ai rejoint officiellement mon ministère comme missionnaire de MENA, ministère évangélique parmi les nations arabophones, détaché auprès des GBU, groupe biblique universitaire, chargé de mission auprès des étudiants musulmans. Je ne sais pas si vous avez retenu. Donc en gros, je m'occupe de tout ce qui est formation des étudiants au témoignage parmi le peuple musulman, mais aussi je suis souvent invité aussi à faire des conférences débats avec des musulmans, un peu partout en France. Donc la prochaine aura lieu à Nancy et Metz donc en février, puis après à Lyon en mars. Et si vous avez envie d'organiser, je crois que j'ai animé une fois une conférence ici, c'était en 2010, et c'était sur l'histoire de l'Église ancienne en Afrique du Nord, donc sa création, sa chute, pas sa rédemption, mais sa renaissance, oui. Je me suis marié en 2014, donc le 27 septembre 2014, avec Nadia, donc une sœur que j'ai rencontrée à l'église kabyle de Pantin. Et nous avons un enfant, un garçon, qui s'appelle Gabriel. Voilà. Amen. Et entre-temps, aujourd'hui Nadia n'est pas là parce qu'il est allé voir sa mère, qui a perdu son mari le 15 septembre, à l'âge de 80 ans. Elle est issue d'une famille musulmane, donc. Mais comment prier ? Moi, je vous encourage vraiment à prier pour les membres de votre famille qui ne croient pas encore en Jésus, parce que c'est une réalité. Comment prier pour eux, même s'ils étaient vraiment des fervents musulmans, et à leur âge quand même. Donc, on a moins de chances normalement d'aboutir à un témoignage. Mais. Sur son lit à l'hôpital, donc il a cru en Jésus et il l'a vu 3 fois dans un rêve. Et c'est pas de la rigolade parce que je pense pas qu'il était. C'était la première fois que ça lui arrive. Et il l'a vu lui dire justement toutes les paroles qu'on a prononcées dans le sens où ne t'inquiète pas. Donc il l'a rassuré. Et c'était donc il décrivait la silhouette comment elle était. Donc il était un homme. Une silhouette blanche, brillante, qui était venue 3 fois le voir. Et il l'avait même vu dans la pièce, et là, il disait même à sa épouse qui était là, il disait, il est là. Et puis on dit, non, il n'y a personne. Voilà, donc il est auprès du Seigneur, et sa femme de 76 ans, elle est devenue notre sœur. Donc elle croit en Jésus. Voilà, je vous ai fait un petit peu, je vous ai donné quelques nouvelles. Et aussi, j'envoie des lettres de nouvelles. Donc, sans doute, certains de l'équipe vous en parlent. Je reviens en tout cas le 5 décembre voir le groupe de jeunes. Donc, leur faire une formation. J'espère que ça va les intéresser. Donc, j'espère aussi que le message de ce matin va vous... du coup, je ne sais pas si j'aurai besoin de micro. Parce que je vois que vous m'entendez du fond de la salle. Ça va ? D'accord. Ah oui, j'ai l'habitude, donc... Pas trop. D'accord. Le message de ce matin, je l'ai intitulé « Courir vers le but ». Pourquoi courir vers le but ? Parce qu'il me semble que nous courons dans la vie, mais parfois dans différentes directions, et au gré du vent, je pense, ou au gré de tout ce qui se passe. Voilà, si la situation sécuritaire est bonne, donc on est peut-être paisible, donc on pense à autre chose. Si y a des événements qui secouent la société, on est un perplexe. Mais j'aimerais vous dire que, à travers ce message de ce matin, qu'il va falloir que chacun puisse de toute manière se tourner vers la même direction et atteindre le même but. Et c'est vrai qu'avec ce que la France a vécu ces derniers temps, ça a quand même fait réfléchir pas mal de personnes. Et ma prière à moi, c'est que, j'espère aussi qu'elle est la vôtre, c'est de prier aussi pour toutes ces personnes qui sont encore en recherche, ils sont encore perplexes quant à leur avenir. Ils ne savent pas. En réalité, notre vie ne tient qu'à un fil, qu'on soit sur la terrasse d'un café ou dans une salle de spectacle. Donc, et que ces personnes-là puissent changer de direction et qu'on puisse prier Dieu afin qu'ils puissent les toucher et qu'ils reviennent vers le but qui est Jésus-Christ. La Bible nous en parle du but, et pour atteindre ce but, il y a une chose à faire, c'est d'oublier le passé et d'envisager l'avenir. Je vous invite ensemble à ouvrir vos Bibles sur la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et tendons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il va falloir parler un petit peu du contexte de cette épître. Il faut savoir que Paul adresse sa lettre à l'épître aux Philippiens, et parmi ces lettres les plus personnelles, nous trouvons cette lettre. Pourquoi ? Parce que Paul tisse des liens très étroits avec cette église, qui le soutenait d'ailleurs dans son ministère, et il les incitait assez souvent aussi à être joyeux dans le Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle assez souvent l'épître de la joie. Dans cette église, il y avait beaucoup de non-juifs d'origine de la Macédoine, et qui étaient quand même affectés aussi par certaines divisions qui les touchaient. Et ce, de la part de certains judaïsants qui voulaient semer le légalisme. En gros, il y avait des difficultés dans cette église, et Paul, justement, les incitait à l'unité, mais surtout en les encourageant à tenir ferme et accéder pour atteindre le but. Et pour décrire son objectif ou son thème, Paul décide de traiter cette question de courir vers le but sur l'image d'un coureur sportif. Donc il a utilisé cette image, et Paul, c'est pas la première fois qu'il utilise des illustrations pour parler de son message ou apporter son enseignement. Parfois il parle de l'Église comme étant un corps. Il parle aussi de la maison, etc. Et ici, pour encourager l'Église à persévérer, il utilise l'image de ce coureur sportif pour décrire la croissance spirituelle du chrétien. Donc en gros, le chrétien, comme le sportif, pour maintenir sa forme, mais surtout pour être plus performant, donc il doit toujours maintenir l'activité en lui. Pareil pour l'Église, elle ne doit pas s'endormir, elle doit toujours être en activité, elle doit toujours être éveillée. Et il décrit son thème pour saisir le but ou le prix. Paul parle de trois étapes importantes donc, dans son message. D'abord, il dit aux coureurs, aux chrétiens, à l'échelle individuelle, il dit de ne pas croire arriver, de ne pas se faire d'illusions. Parce que dès le départ, si on dit que je suis arrivé au but, c'est illusoire, donc on ne voit pas comment on est arrivé. Deuxième étape, c'est oublier le passé et tendons vers ce qui est en avant. Je pense qu'un coureur, il court, il regarde vers l'avant. Je pense, parce que s'il regarde en arrière, il risque de tomber. troisième point essentiel, c'est courir et courir. On ne peut pas courir 200 mètres et dire « ouais, j'ai couru ». Donc on doit courir et courir jusque pour saisir le but. Ne pas croire arriver, versets 12 et 13. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais c'est quand même étonnant que Paul, à ce stade-là, parle et dit qu'il n'a pas saisi le prix. Parce que Paul, il a quand même fait beaucoup d'étapes dans sa vie spirituelle. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne ? En réalité, Paul est réaliste. Même s'il est à la fin de sa vie chrétienne, ayant acquis une certaine maturité, atteint un certain degré de sanctification, il ne perd pas de vue ce qu'il n'a pas encore franchi. C'est-à-dire, s'il n'a pas encore arrivé à la ligne d'arrivée, il ne peut pas dire qu'il est arrivé jusqu'au bout. Et cela nous enseigne une chose, c'est que plus il devient mature dans la foi, plus il devient réaliste. C'est pour ça que, je ne sais pas, normalement, enfin, on peut le remarquer déjà en nous, c'est que plus on avance, plus on connaît, plus on devient très réaliste et très posé, et on essaye de comprendre les choses. Il faut savoir que Paul parle à plusieurs reprises, dans par exemple Romains 12, 16, en disant « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. » Quelque part, Paul aussi a acquis, à travers son expérience, une certaine humilité, qui était aussi une des caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même ne se voyait pas. Il a laissé sa gloire pour se rabaisser, pour être aussi à la portée de tous. « Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. » 2 Corinthiens 10, 1. Il faut savoir que cette humilité qu'on a acquise, elle ne tombe pas du ciel, elle n'arrive pas du jour au lendemain. Donc, soit Dieu va nous l'apprendre avec les épreuves, soit nous la cultivons au regard des Écritures. Si peut-être nous avons du mal parce que nous sommes orgueilleux et que nous avons du mal à nous rabaisser, je pense que la meilleure manière, c'est de prier Dieu pour qu'il nous aide à obtenir cette humilité. Il faut savoir une chose, c'est que on a un autre exemple, le roi Salomon, dans toute sa gloire, il a fait pas mal de choses. Il a construit une richesse énorme. Mais à la fin de sa vie, il a tiré un trait sur sa vie, il a dit, en conclusion, tout est vanité, vanité des vanités, et rien de nouveau sous le soleil. Et dans son livre, les livres qu'il a écrit dans Ecclésiaste 12, au verset 14, au verset 13, nous voyons à peu près le degré de conclusion de Paul. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là tout l'homme. C'est ça la conclusion. C'est-à-dire, après avoir passé toute cette gloire, tout cet exploit, on arrive à cette conclusion de dire qu'en réalité, la seule chose qui reste, c'est de craindre Dieu et d'observer ses commandements. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc si Paul, après tout ce qu'il a accompli, il n'estime pas avoir atteint le prix, et Salomon aussi, à plus forte raison pour nous aujourd'hui. Donc je pense que de notre petitesse, on ne peut pas dire que ça y est, je connais tout, je sais tout, je maîtrise tout. Ça fait 15 ans, 20 ans que je suis chrétien. Voilà. Je pense que ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais il faut trouver évidemment un équilibre dans tout ça. C'est-à-dire notre expérience personnelle avec le Seigneur qui est là, avec nous, et qui n'est pas à négliger. Oui, on a fait des choses, le Seigneur était là avec nous, dans Cela constitue notre témoignage quotidien, ce qui est bien, et notre aussi défi à venir. Donc tous nos projets qui sont à l'horizon, que nous voulons relever, et nous devons créer un équilibre de ne pas chavirer, et de garder toujours le cap, et d'aller toujours de l'avant. C'est pour cela que, peut-être ce n'est pas uniquement un conseil, mais c'est une recommandation pour que les frères et sœurs soient bien entourés par d'autres frères et sœurs qui ont une expérience, qui sont des personnes, des frères et sœurs de confiance, qui peuvent aussi les aider à passer ces étapes. Et surtout, arriver aussi à l'idée de partager les fardeaux les uns les autres, et pourquoi pas aussi prier les uns pour les autres afin de grandir dans la foi. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, vivre sa foi seul, ça comprend des risques. Et le mieux, c'est se ressourcer à l'Église, d'avoir toujours ce lien très très fort avec l'Église, avec tous les membres de sa famille si c'est possible, mais aussi de cultiver des relations personnelles avec les frères et sœurs, en dehors de l'Église, et pourquoi pas avec aussi tout le réseau chrétien. Et quand Peter disait que Sylvain n'est pas là, parce qu'il est dans une autre Église pour prêcher, et qu'il n'y a qu'une seule Église, ben il a raison, parce que nous ne formons qu'un seul corps, celui de Christ. Deuxième point, oublier le passé et aller de l'avant. Donc pour un coureur, pour qu'il avance, il va falloir qu'il oublie. Et souvent on me dit, quand on veut marcher vite, il ne faut pas regarder devant ses pas. C'est-à-dire, c'est comme si on a l'impression qu'on se lasse rapidement. Mais il faut regarder au loin pour avancer. Et on regarde comment s'approcher du but. J'essaie de voir ça, j'expérimente ça tous les jours quand on marche. Et c'est vrai que le mieux, c'est d'atteindre le but. C'est de regarder vers l'avant et de ne pas regarder juste devant ou même carrément en arrière. Paul dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut savoir une chose ici, c'est que Paul n'est pas pessimiste, ni même passif. Il ne dit pas, je suis très déçu de... et donc je fais rien. Mais Paul, il essaye de se mettre au travail. Et son premier travail se fait déjà à son propre échelle personnelle. Paul, avant de se convertir, il était quand même quelqu'un de mauvais. Et c'est lui qui le dit. Il était très orgueilleux. D'ailleurs, il croyait qu'en persécutant les chrétiens, il allait obtenir les faveurs de Dieu. Il croyait qu'en accomplissant la loi, il allait aussi obtenir son salut à base de ses œuvres. Voilà, donc c'était quelqu'un d'accompli, quand on parle de l'accomplissement de soi. Donc Paul était un peu dans cette situation-là, avant qu'il soit foudroyé par Christ, dans le sens où qu'il soit touché par Christ, qui s'est révélé à lui directement sur le chemin de Damas. Et donc Paul, il traînait avec lui un boulet de son passé. Et ça lui faisait mal. Les textes de la Bible ne le disent pas, mais j'imagine que peut-être dans son entourage, certains lui reprochaient aussi son passé, quelque part. Et dans son passé, il y avait son excès de zèle contre l'Église, son ego, sa position sociale favorable, du coup écrasante des minorités. Et on connaît souvent les religieux, comment ils se voient par rapport à ceux qui ne le sont pas. Souvent, ils se mettent en avant, au devant de la scène, comme quoi eux, ils sont plus proches de Dieu que les autres. Alors que ce n'est pas le cas. Mais Paul, qu'est-ce qu'il en dit de ça, de ce passé qui est à lui propre? Il dit, moi je considère ça comme de la boue, des détritus et des ordures. Et ça, il le dit dans le chapitre, le chapitre 3, versets 3 à 10. Et donc, de sa tête déjà, dans sa tête, il a décidé de mettre de côté tout son passé qui le maintenait prisonnier de son présent. Et du coup, l'empêchait d'avancer vers l'avenir. Et je pense que quelque part, ce que Paul a vécu, il peut aussi nous arriver aujourd'hui. Parce que nous avons tous un passé, nous avons tous parcouru déjà une vie derrière, enfin, devant nous. Et quelque part, cette vie passée est remplie de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Et je pense que Paul, quand il parle de son passé peu glorieux, il parlait aussi de tout ce qu'il avait fait comme méchanceté. Et qui peut-être revenait dans ses pensées au présent, et qu'il retenait captif du présent. Et la meilleure solution de Paul, c'est d'oublier. Et c'est vrai que c'est pas facile d'oublier, parce que nous ne sommes pas des ordinateurs. On efface, on supprime et on restaure. C'est pas facile. On dit à quelqu'un, mais oublie, ben, qu'est-ce que tu veux ? Ben voilà, fais un travail sur toi-même. Donc oublie, change de vie, change d'adresse, change d'appart. Mais le côté psychologique, il est toujours présent. Comment on va oublier, nous qui sommes chrétiens ? La meilleure manière, c'est que un chrétien, il n'est jamais seul. Un chrétien, il est toujours assisté par le Saint-Esprit qui est en lui. Et ce Saint-Esprit, c'est Dieu qui l'a, c'est Jésus qui nous l'a promis. Il est en chacun de ses enfants. Il est notre consolateur, notre avocat et notre défenseur. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui est notre psychologue à nous, si vous voulez qu'on parle du terme technique. On n'a pas besoin d'être suivi ou de se faire suivre. Donc nous voulons tout simplement être soumettre notre situation au Saint-Esprit qui va nous délivrer de tout cela. Et c'est aussi toujours intéressant de garder les choses bonnes de son passé, ou tout ce qu'on a accompli de bien dans notre passé, parce que ça nous permet aussi d'expérimenter, ça nous a aussi permis d'expérimenter la promesse de Dieu à notre égard dans notre passé. Et si nous continuons à faire confiance à Dieu, aujourd'hui, dans le présent, aujourd'hui nous sommes 29 novembre, si nous continuons à croire, à l'écouter, c'est parce que le 28 novembre, le 27 novembre, le 26 novembre et tous les jours précédents, Dieu est avec nous. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel. Et le plus important avec Christ aussi, c'est de savoir que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Et Christ ne cherche pas aussi à une rétrospective sur notre vie. D'ailleurs, il la connaît avant même qu'on lui divulgue tout ça. Mais il cherche tout simplement notre cœur. Que nous lui donnions notre cœur, notre vie, à lui tout simplement. D'ailleurs, il ne demande pas que ça soit divulgué devant tous, enfin, que le pas qu'on doit faire doit être obligatoirement devant le public, mais qu'il soit tout simplement dans la discrétion totale, dans notre chambre, à la maison. Donc nous pouvons s'approcher de lui et tout se mettre au pied de la croix. Évidemment, tout sera su par l'Église et que l'Église va nous soutenir aussi dans cette étape que nous avons franchie. Et il faut savoir une chose, c'est que Christ nous a donné cette promesse, qu'il sera lui aussi avec nous jusqu'à la fin du monde. Parce que tous les jours, il intercède en notre faveur auprès de Dieu. Donc nous avons un intercesseur auprès de Dieu, qui est Christ. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne tous les jours. Que d'ailleurs, il ne faut pas attrister, mais qu'il faut toujours suivre. Et nous avons aussi sa parole, qui est véridique, parce que pour connaître Dieu, nous pouvons le connaître que par sa parole. Et moi, je vous encourage fermement à vous attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu est semblable à quelqu'un qu'on connaît, à travers une correspondance qu'on fait, et que cette personne qui est de l'autre côté de l'Atlantique nous parlait de son quartier, de sa maison, de sa famille. Et on échangeait. À travers ces échanges, nous pouvons connaître, faire un pas dans son quotidien, sans même être présent à côté de lui. Nous pouvons savoir que sa maison est peinte en bleu. Nous pouvons savoir qu'il a une voiture de marque Volvo. Nous pouvons savoir qu'il a deux enfants, mais sans jamais les voir. Mais le jour où il va nous peut-être nous inviter, que nous allons prendre un billet, aller le voir, à ce moment-là, on va découvrir que tout ce qu'il nous a dit est réalité. Moi, je dirais que la parole de Dieu est semblable à ce voyage que nous faisons tous les jours avec le Seigneur sur cette terre. Et à travers sa parole, nous pouvons le connaître jour après jour, toujours, au quotidien, jusqu'au jour où nous allons le voir de nos propres yeux. Donc, soyons fermes, parce que nous avons le Seigneur qui intercède, l'Esprit qui nous accompagne, la parole qui nous parle, qui nous encourage. Parce que la parole de Dieu est aussi une parole inspirée et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la vérité. Et comme je disais, il ne faut pas que le passé, notre passé, nous condamne. Permettez-moi de vous raconter une histoire, je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous l'ont déjà lu, je l'ai tiré du livre de Neil Anderson, qui est très parlante. Il était une fois un arbre tout neuf qui apparut un jour dans un jardin déjà rempli d'arbres plus hauts et plus vieux. Le petit arbre avait reçu pour la première fois une belle parure de feuilles. Il se sentait très fier de son feuillage. Quand vint l'automne, ses feuilles vinrent au jaune et des petits arbres en furent tout morflus. Le petit arbre en fut tout morflu. Affolé, il regarda autour de lui pour constater que les feuilles des autres arbres prenaient la même couleur. Il en fut rassuré. Mais voilà qu'il perdit une feuille. Pris de panique, le petit arbre décida de retenir fermement toutes les feuilles qu'il avait encore. Il jeta de nouveau un coup d'œil aux autres arbres et remarqua qu'ils perdaient eux aussi leurs feuilles. Comme quoi, regarder aux autres, ça peut nous rassurer. Pourquoi laissaient-ils donc s'échapper leurs feuilles? Comment seraient-ils protégés du vent? Sans parler du soleil, comment ferait-il son feuillage pour offrir de l'ombre? Le petit arbre prit la décision de ne pas laisser échapper une feuille de plus. Même si elles devenaient toutes brunes, elles ne tardèrent pas à mourir. Mais le petit arbre tenait bon, car il se sentait rassuré à l'abri de ses feuilles. Avec l'arrivée de la neige, bientôt, elle lui pesait. Mais il s'efforçait toujours de les garder. Le temps devint alors plus chaud, et de douces pluies remplacèrent les chutes de neige. Ah, voilà qu'il était nettement mieux. Alors, il fut frappé de voir de petits bourgeons verts pousser sur les autres arbres. Certains se mirent même à fleurir. Il avait beau s'examiner attentivement, pas le moindre signe de changement en ce qui le concernait. Il ne fallait pas longtemps avant que les autres arbres se couvrirent de feuilles épanouies. Certains portaient déjà des fruits qui pendaient au bout de leurs branches. Il en conçut une vive jalousie. Il demanda alors à Dieu, « Dis donc, comment se fait-il que t'aies donné des feuilles et des fruits aux autres et que moi je n'ai rien reçu ?» Dieu lui répondit, « Mon cher petit arbre, tu as reçu le même soleil. J'ai fait pleuvoir sur tous la même pluie et j'ai offert le même amour qu'à tous les autres arbres du jardin. » Le petit arbre répliqua, « Mais enfin, Seigneur, regarde-moi donc. Vois comment je suis laid. Pourquoi ont-ils été parés de ces feuilles nouvelles et pas moi? Ce n'est pas juste. » Dieu lui dit alors, « Mon enfant, tu n'as pas reçu de nouvelles feuilles parce que tu n'as pas abandonné les mortes. Les arbres plus anciens, vois-tu, sont passés par la même saison plusieurs fois déjà. Ils savent ainsi que lorsqu'ils laissent partir une feuille morte, je la remplace avec une nouvelle le printemps venu. Et même s'ils reçoivent d'habitude encore plus que celles d'avant, ils ont du mal à les laisser partir, tout comme toi. C'est une victoire qui n'est jamais acquise, même en grandissant. Tout ce que tu as à savoir, c'est qu'il y a une bonne raison de ne pas garder les feuilles mortes. Ne te laisse pas abuser par ta peur et ton orgueil de garder les choses du passé. D'ailleurs, avoue qu'il t'a été difficile de les retenir en hiver. Il te sera bien plus aisé de les laisser partir et de me laisser le soin d'en donner de nouvelles. Voilà la leçon que doivent apprendre tous les arbres. Le petit arbre dit, Es-tu en train de me dire que je peux devenir aussi beau que les autres ?» Dieu répondit, « Tu es déjà aussi beau que à mes yeux. Malgré tes vieilles feuilles, je ne t'aime pas moins qu'eux. Je regarde à ce que tu peux devenir, pas à ton apparence d'aujourd'hui. Mais si tu veux vraiment grandir, sois patient, laisse partir tes feuilles au fur et à mesure qu'elles meurent, et je me charge du reste. Je t'aime. » Voilà une petite histoire que je trouve très intéressante et qui renferme en elle beaucoup d'enseignements. Et je trouve que parfois nous essayons de garder ces choses du passé qui nous accablent dans le présent, ne serait-ce qu'en dans nos pensées. Et c'est comme si, en fait, ça fait partie de notre héritage et que nous avons besoin de les emporter avec nous. Or qu'en réalité, cette histoire, en fait, quelque part, donc répond aussi à la question de laisser tout son passé entre les mains de Dieu. Et Dieu seul s'en chargera si nous lui faisons confiance totalement. Troisième point et dernier qu'il faut faire et que dont Paul parle, c'est de courir vers l'avant. Pour courir, il faut être apte. Parce que pour qu'on soit sélectionné, il faut quand même être en mesure de courir. Parce qu'on ne peut pas dire « je vais courir, mais je ne peux pas courir ». Et justement, courir, ça sous-entend aussi qu'on doit faire des efforts. Pour courir, il faut appliquer une discipline stricte à son corps, une bonne préparation et un entraînement solide. Dans un autre passage sur la persévérance, Paul dit aux Corinthiens, sur un peu la même idée, dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. » Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quelque part, Paul nous dit que dans notre course vers le but, vers le Seigneur, il faut appliquer à notre corps, dans cette image, mais aussi dans l'image d'un chrétien, à notre esprit, une discipline particulière. Donc pour courir, il faut aussi savoir ou avoir cette capacité spirituelle. Être attaché à la parole de Dieu, être entouré des frères et sœurs, s'impliquer dans le service avec Dieu ou dans son Église. Tout ça constitue en nous des qualités qui nous permettent de courir. Parce que vous imaginez, un coureur, il doit aussi résister à la tentation sur son chemin. Il doit aussi... évidemment, garder son rythme constamment. Et si, par exemple, nous ne sommes pas équipés pour mener cette course, nous aurons sans doute des tentations, des difficultés qui vont peut-être nous détourner de notre trajectoire. La vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ comprend tous les desseins de Dieu mis en œuvre pour notre salut. Elle englobe le salut, la conformité à Christ, le privilège d'être héritier et co-héritier du Seigneur. En guise de conclusion pour mon message de ce matin, j'aimerais dire que le plus important, ce n'est pas le passé. D'ailleurs, la nouvelle année approche, donc nous allons la vivre avec de nouvelles décisions, de nouvelles résolutions, et j'espère que ce sera une nouvelle étape aussi. Pour des personnes qui ont déjà franchi d'autres étapes. Et que le but, surtout, c'est de envisager l'avenir qui est devant nous. Paul dit « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Courir est un travail de tous les jours, sans se laisser tenter ni perdre la trajectoire. Mais le plus important, c'est de courir vers le Seigneur, faisant attention à la course que nous menons. Pas de ralentissement, pas d'arrêt et pas de distraction. » Notre but aujourd'hui, c'est d'avancer jour après jour avec le Seigneur et dire à la fin de notre course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le prix réservé à ceux qui ont bien couru. Que le Seigneur vous accompagne tous dans votre course. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est là pour nous parler de toi, pour nous encourager, pour nous fortifier. Seigneur, je te prie pour que tu puisses nous aider à atteindre ce but, celui, Seigneur, d'arriver vers toi, sans qu'on trébuche, sans difficulté. Seigneur, je te prie d'assister ceux parmi nous qui ont des difficultés. Je te prie, Seigneur, de les assister par ton esprit, de les encourager, de les entourer aussi. Je te prie aussi pour nos frères et sœurs qui, sans doute, portent aussi leur passé qui est là, qui essaie aussi de les détourner du présent. Je te prie, Seigneur, de tout briser et, Seigneur, de tout rejeter, Seigneur, de tout rejeter ce passé qui empêche tes enfants d'avancer. Seigneur, nous remettons entre tes mains aussi cette nouvelle année qui s'approche. Nous voulons qu'elle soit aussi consacrée à toi et que dans notre vie, nous puissions te garder la première place. Seigneur, merci aussi de nous aider à être ces lumières autour de nous dans ce monde troublé. Permets que, Seigneur, nous puissions annoncer ta parole et surtout que tu seras avec ceux et celles qui te cherchent. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.